Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
Nouvelle qui a attiré mon attention et je suis certaine qu'elle a attiré la vôtre aussi. Et si vous êtes parents, les enfants qui affichent le taux de propagation le plus élevé de la province, on en jase avec Benoît Barbeau, virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
Bonjour.
Ça faisait longtemps quand même qu'on ne s'était pas parlé. J'avais presque oublié le son de votre voix. OK, depuis le début de la pandémie, là, on le sait, les enfants ont pu être touchés. Là, la situation est en train de changer. On a un taux de propagation très, très élevé dans cette population-là. Clairement, puis on va en reparler un peu plus tard là, en cours d'entrevue, le vaccin Pfizer vient, va venir peut-être calmer tout ça. Mais c'est quand même assez préoccupant, là, 147 nouveaux cas par jour en moyenne chez les jeunes Québécois de moins de 10 ans, 13 % d'augmentation de semaine en semaine. Là, ils viennent de surpasser les 20 à 29 ans. Les enfants, quand même, je pense qu'il faut le dire, pour faire paniquer le monde, là, sont beaucoup moins hospitalisés. Mais là, j'imagine, M. Barbeau, que c'est l'école la coupable de tout ça. Là.
Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est quand même, on s'y attendait. Donc, il y a deux facteurs importants tout de même. Le premier, c'est que contrairement à l'année dernière et puis au cours depuis le début de l'année, on fait face à un variant qui est beaucoup plus transmissible. Donc, que ce soit chez les adultes comme chez les enfants, ce virus-là est beaucoup plus transmissible, va être capable justement d'infecter une personne qui est à proximité d'une personne qui est contagieuse, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte. Bien sûr, proportionnellement, on croit que les enfants vont être probablement moins contagieux, mais si on se compare avec l'année dernière, c'est sûr qu'on le variant fait une grande différence. Autrement, bien comme on s'y attendait avec la rentrée scolaire, plus de contacts personne à personne, on oblige évidemment les enfants de porter les masques quand même, qui est une bonne mesure, mais n'empêche que le simple fait d'être plus rapproché dans des lieux intérieurs, bien sûr, on ne peut passer à côté de cette augmentation-là qui était quand même assez prédictible.
On n'a plus la même consigne que l'an passé. L'an passé, rappelez-vous, moindre petit toussotement, clignage de yeux, l'œil qui me pique, puis c'était avoyer à la maison, puis on passe le test. Là, on tolère quelques symptômes à l'école. Ça aussi, j'imagine que ça doit changer la donne au niveau de la contagiosité.
Je crois qu'en effet, on attend un peu. Lorsqu'on a des symptômes, on s'attend à ce que probablement c'est autre chose. Donc, on est quand même un peu moins méfiant. Et puis, donc, il y a un certain confort ou une certaine acceptation.
On s'est habitué.
Des symptômes. Pardon, oui, bien, on s'est habitué dans le sens que je ne sais pas à quel point, mais vous savez, on veut absolument que les enfants retournent à l'école. On veut justement qu'ils vivent quand même la rentrée scolaire le plus normal possible. Mais c'est certain qu'il y a quand même un risque. Et on s'est aussi habitué au fait que les enfants étaient moins contagieux, donc surtout associés avec des symptômes beaucoup plus bénins. Donc, ils étaient moins symptomatiques graves. Alors, je crois qu'il y a quand même une sorte, pas une acceptation, mais en fait, on laisse un peu aller justement les symptômes, puis on est un peu moins vigilant dans ce sens-là. Alors, si la réalité est que justement, au moment où il y a quand même un enfant justement qui est déclaré positif, eh bien là, c'est sûr que l'école doit, l'établissement scolaire doit absolument agir pour éviter que la transmission se fasse à de façon trop élevée. Et l'autre point qui est important, c'est qu'il faut se rappeler constamment qu'en effet, les enfants sont ceux qui c'est la tranche d'âge qui n'est pas vaccinée. On parle des 10 ans et des 11 ans et moins, mais c'est eux, en effet, qui, en fait, dû à notre campagne vaccinale, demeurent en ce moment une des cibles qui pourra être plus prévalente face aux variants actuels.
Bon, je veux qu'on se parle d'une des stratégies là qui s'en vient. C'est là. J'ai reçu le courrier de la CSDM hier concernant les fameux tests rapides. On nous expliquait grosso modo que ça s'en venait dans les écoles primaires à Montréal. On sait qu'il y a des écoles qui sont ciblées là un peu partout. Là, ce que je comprends de la communication que plusieurs parents ont reçue, là, c'est que ces tests-là seront seulement utilisés lorsque les enfants auront des symptômes à l'école. Oui. Donc, c'est pas quelque chose que tu fais avant de partir chez vous, là. Il y aura une personne formée pour les effectuer. Mais ça remplacera pas les vrais tests, là, Dr. Barbeau. Donc, en ce sens-là, est-ce que c'est une bonne stratégie?
Ben oui. Dans le fond, là, notre façon de voir, ce serait toutes les stratégies. Plus qu'on ajoute, justement, des stratégies efficaces, mieux qu'on va être. Maintenant, c'est sûr que si vous testez un enfant qui est symptomatique, il y a des bonnes chances qu'avant même qu'il soit symptomatique, il va être contagieux. Alors, c'est un compromis que le gouvernement a décidé de prendre, mais n'empêche que si on pouvait même essayer d'utiliser les tests rapides de façon un peu plus, de façon plus fréquente, pour s'assurer même peut-être d'essayer de prévoir ou de prévenir une éclosion, ça serait même idéal plutôt que tester un enfant qui présente.
Mais qui est déjà là, tu sais, qui a déjà touché à plein d'enfants.
Qui a déjà été en contact avec d'autres enfants, mais c'est un peu le compromis auquel ils sont venus. Mais n'empêche que les tests rapides, au Québec, même à travers le Canada, on a été extrêmement lent pour les utiliser. Puis c'est un autre élément, un autre outil qu'on doit utiliser. Ce n'est pas aussi sensible que les tests PCR réguliers, mais n'empêche que si vous êtes capable de détecter dans un nombre d'étudiants certains individus qui sont positifs, eh bien là, à ce moment-là, donc vous avez une présence justement du virus à l'école, et là, vous pouvez faire une analyse beaucoup plus rapide et efficace.
Oui, tellement lent aussi qu'il y en a plusieurs qui vont passer date très, très bientôt. Là, M. Barbeau, j'ai l'impression des fois qu'on nous prend un peu pour des... Je dois dire des innocents, là, entre guillemets, parce que, tu sais, on s'entend, là, il y a plein de personnes qui seraient capables de les effectuer, ces tests rapides-là. Là, je pense aux parents. Je suis capable de passer un test de grossesse, là, de faire pipi sur un petit bâtonnet. Je suis capable de faire un test d'ovulation. Je suis capable de faire plein d'affaires là, avec des affaires qui sont en vente libre, en pharmacie. Même, tu sais, on voit ça, comment ça va fonctionner, les tests rapides. Là, ça semble pas être une science vraiment très, très complexe. Pourquoi pas avoir fourni, puisqu'on en a en quantité, des tests rapides, des tests aux parents qu'on puisse justement tester nos enfants le matin quand on a un doute, de façon à ce qu'on évite de les envoyer à l'école? Ça pourrait être le même scénario en entreprise aussi. J'ai l'impression qu'on les sous-utilise.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et je pense que par rapport aux autres provinces, on les sous-utilise. On est vraiment les derniers à commencer à penser à les utiliser. Puis comme vous le dites, je veux dire, c'est pas facilement accessible. Donc, on pourrait facilement donner l'opportunité à monsieur tout le monde, justement, d'avoir des tests rapides puis de les utiliser
au bon moment,
puis s'assurer, justement, de savoir si leur enfant ou eux-mêmes sont testés positifs. Puis là, on est en train, justement, de les utiliser dans les milieux de travail. Mais certainement, le Québec a été quand même plutôt lent. Et puis, on doit se rappeler que même le Canada, à un moment donné, avait tapé sur les doigts de tous les gouvernements provinciaux parce que on avait sur des étagères un nombre de tests rapides, puis dans le fond, on les utilisait pas. Et vraiment, on pourrait dire le mauvais étudiant, le pire étudiant, justement, au niveau des provinces, c'est le Québec. Vraiment, on a vraiment été très lent. Et comme je vous l'ai dit, c'est un des outils, et ça a été utilisé à travers la planète, aux États-Unis, comme ailleurs, je veux dire, c'est un des outils qu'on peut utiliser, qu'on peut vraiment rapidement identifier la probabilité qu'un lieu de travail ou encore un établissement scolaire est en train justement de qu'il y ait une éclosion qui pourrait se pointer éventuellement. Alors vraiment, ça, on a été lent, puis même comme vous le dites, de l'utiliser, tout le monde pourrait l'utiliser d'une certaine façon. Je crois qu'encore là, on a quand même cette réticence. Puis je crois que le gouvernement aussi semblait vouloir attendre d'avoir des résultats qui étaient plus probants, démontrant l'efficacité de ces tests en début d'année. Je crois qu'il avait fait une étude pilote, puis ça avait été convaincant, mais ça a tardé pour éventuellement qu'on l'utilise.
Oui, un peu comme la ventilation, on le savait, mais on le fait pas.
Parlons
du vaccin. Monsieur Barbeau, là, on attend ça comme le messie. Moi, mes enfants me posent la question environ 2-3 fois par semaine. Là, maman, quand est-ce qu'on va pouvoir être vacciné? Mes enfants qui sont au primaire, celles au secondaire, ces deux doses depuis un petit bout. Mais là, on sait que Pfizer est allé de l'avant avec une étude clinique sur des tout-petits. Qu'est-ce qu'on sait là sur la vaccination Pfizer et justement la vaccination des 5 à 11 ans?
Bien, c'est ça. Donc, ça fait quand même de plusieurs semaines et mois que non seulement Pfizer, mais aussi Moderna, même Johnson & Johnson ont été de l'avant pour faire des tests justement au niveau des jeunes. On parle même entre de 6 mois à 11 ans. Donc là, en ce moment, on est au niveau des tranches 5 à 11 ans. Puis je pense que ça se tombe bien justement par rapport à ce qui se passe au niveau des étudiants scolaires, au niveau primaire. Mais l'annonce qu'a faite Pfizer est à l'effet que sur une cohorte d'environ 2800 jeunes, ils ont démontré en effet d'une part que c'était sécuritaire. Donc, comparativement plutôt aux adolescents.
Oui, mais il y a du monde qui trouve que ça va vite, là. On a fait une étude sur 2268 participants des enfants. Est-ce que c'est assez? Parce que bien des gens dans le milieu scientifique disent, ben OK, ça va quand même, ça roule rondement, là, c'est vite, mais...
Oui. Ça, je comprends. Mais vous savez, lorsqu'on avait testé les 12 ans et plus, on n'avait quand même pas été avec plusieurs dizaines de milliers. Là.
C'est ça.
Donc, c'est sûr qu'on compare toujours aussi aux études qui ont été faites chez les adultes. Alors, au niveau sécuritaire, on est à des niveaux similaires, c'est-à-dire qu'on a des effets secondaires similaires. Au niveau de production d'anticorps, donc de protection qui est prédit, on est au même niveau.
Même réponse immunitaire, c'est ce que je comprends là, qu'une population, oui. Que les ados, là, mettons.
Ben, c'est-à-dire que si on prend des 5 à 11 ans, lorsqu'ils ont dosé des anticorps qui étaient présents chez les enfants qui avaient été vaccinés, la dose était comparativement similaire aux adolescents. Donc, on s'attend. C'est sûr qu'on n'a pas d'études un peu comme une vraie phase 3 qui dit, ben, comme on a fait au tout début, que, je sais pas moi, 20, on a une 20 fois plus forte protection contre le virus de la COVID-19. Donc, au niveau de l'apparition des symptômes, on n'a pas ces données-là parce que le nombre est trop petit. On est trop tôt. Mais n'empêche qu'on peut quand même faire un parallèle avec la production, la réponse immunitaire en tant que telle. Mm. Et puis, ce qu'on voit chez les jeunes enfants en 5 à 11 ans, on est à un niveau qui est suffisant pour prédire en effet que les enfants vont être protégés.
Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Là, on a parlé des complications possibles, là, inflammation de l'enveloppe du cœur chez les ados. Là, ce qu'on a vu aussi, c'est que peut-être la stratégie consisterait à injecter une dose moins forte, intervalle de 21 jours. Ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont utilisé en effet un protocole similaire, donc avec l'utilisation des adolescents, un tiers de la dose normalement utilisée chez les adolescents et les adultes. Ceci dit, évidemment, avec 2000 quelques enfants, ils n'ont pas été capables de voir des cas de péricardite et de myocardite parce que le nombre est très faible et on sait que la fréquence d'occurrence chez les adolescents est quand même très faible. Alors, c'est certain que est-ce qu'il y aura des cas comme ça? Mais il faut rappeler aussi que même lorsqu'on les voit chez les adolescents et les jeunes adultes, c'est quand même extrêmement rare. Et puis, c'est traitable. Et s'il y a une nécessité d'hospitalisation, on sait très bien comment bien les traiter quand même. Ceci dit, il est évident que le nombre est faible et puis qu'il va vraiment falloir être très vigilant pour s'assurer de voir si jamais il y a des effets secondaires qui ont été manqués. Mais autrement, les effets secondaires qu'on a vus à date sur les 2000 enfants, en fait, sont relativement comparables à ce qu'on a vu avec les adolescents.
Bon, M. Barbeau, je sais que vous ne travaillez pas pour Santé Canada. Là, on murmure qu'aux États-Unis, on souhaiterait vacciner les enfants avant l'Halloween. Combien de temps, selon vous, après que la FDA ait approuvé le vaccin, avant qu'on emboîte le pas ici et qu'on vaccine nos enfants, finalement?
Bien, écoutez, ça a l'air rouler très rapidement. Donc, on peut être... C'est quand même encourageant dans le sens qu'on va avoir une vaccination qui va se faire probablement débuter avant la fin de l'année, ce qui est déjà très encourageant. On parlait de janvier 2022, il y a quelques mois. Et puis, avant l'Halloween, ça, je ne sais pas, évidemment, ça dépend à quelle rapidité que l'Agence de santé publique du Canada va pouvoir donner son autorisation. Évidemment, il y a d'autres comités qui vont donner justement leur recommandation.
Mais une pression politique aussi, il ne faut pas évacuer ça. Là. Les parents le demandent, les profs le demandent. Puis je comprends que c'est la santé publique qui prend les décisions.
L'Agence de santé publique du Canada a un devoir aussi à faire de s'assurer que même si Pfizer arrive et dit c'est sécuritaire et les données demandent que c'est efficace, eux ont un devoir de s'assurer qu'une fois qu'ils ont les données devant eux, en les analysant, sont capables aussi d'arriver avec une conclusion qui est la même. Donc, c'est quand même un poids qui est assez important. Alors, il faut absolument que ça soit fait de façon juste pour éviter justement que ça dérape dans les prochaines semaines ou mois. Mais certainement, on sait qu'on veut absolument que ça accélère parce qu'on voit un peu ce qui se passe dans les établissements scolaires et puis on veut protéger les enfants face aux variants actuels. Mais aussi, vous savez, il y a aussi un point très important, c'est face à les scénarios futur, à savoir comment le virus va évoluer à travers cette couverture vaccinale.
Ben oui, on nous parle de troisième dose, là, un rappel.
Oui, mais aussi, quel genre de variant qui va se pointer? Je veux dire, on entend parler du variant lambda, mais éventuellement, il y aura possiblement d'autres variants qui auront des propriétés différentes. Alors, il est important de protéger les enfants de 5 à 11 ans pour s'assurer justement de les protéger actuellement, mais aussi pour peu importe ce qui pourrait se développer dans les prochains mois. Alors, c'est certain que le moment est bien choisi, qu'on peut espérer qu'en effet, que l'Agence de santé publique du Canada bougera rapidement pour s'assurer qu'on a une vaccination, une campagne vaccinale qui dépend.
On a très, très hâte. Oui, surtout que l'hiver approche et qu'on sait que la propagation à cette époque de l'année est plus grande. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue.
Merci beaucoup.
Bye-bye.